17 septembre 2021, bienvenue à la toute première édition de la deuxième saison du podcast La Relève à 25 jours du début de la saison régulière. Je retrouve mes deux collègues Nicolas Cloutier et Martin Thériault. Les boys, comment ça va?
J'avais hâte de vous retrouver. L'avantage, je trouve, avec cette saison-là un peu bizarre de la LNH, c'est qu'il n'y a pas eu trop de temps mort. Alors, on s'est retrouvé assez rapidement là, depuis le repêchage.
Bon, et puis écoute, j'étais dans mon salon, j'avais tout simplement hâte de vous retrouver, vous deux, mais retrouver aussi nos fidèles auditeurs, tous ceux qui sont intéressés d'écouter les espoirs. Là. J'avais hâte que ça recommence, c'est toujours la même chose. Je sais pas si c'est la même chose pour vous autres, là, mais tu sais, lorsque tu es au mois de septembre, puis tu sais, on adore les autres sports, là, mais à un moment donné, après un ou deux mois de congé, on a hâte que le hockey revienne, puis là, tu commences à voir les camps de recrues recommencer. J'ai écouté un match entre les Red Wings et les Stars hier, là. Puis là, tu t'en manges, tu vas en avoir le plus possible, et bien, on a tout simplement hâte que la saison commence.
Ouais, puis c'est drôle que tu dises, Nick, que c'est vrai qu'il y a eu quand même une saison morte hyper mouvementée, particulièrement du côté du Canadien de Montréal. Et considérant le fait qu'ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley, que ça s'est passé en juillet, on aurait dit que c'est une des années où est-ce que j'ai le plus hâte que ça recommence. Il y a des années qui sont éliminées au mois d'avril, il y a des années qu'au mois de février, ils ne sont plus dans le game. Mais là, c'était tellement le fun, je trouve tellement que c'est excitant, le hockey à Montréal, que ça ne peut pas arriver assez vite. Puis je suis vraiment content que le camp des recrues s'amorce.
Puis là, on va avoir du vrai hockey devant les partisans, dans des circonstances qui sont beaucoup plus normales. J'ai hâte de voir ça. Et personnellement, moi, les gars, ça a tout a été ma portion favorite de la saison parce que c'est la portion la plus analytique. Hein. Tu vas voir des joueurs que tu n'as pas vu jouer avant beaucoup, du moins vraiment pas. Puis on est vraiment en mode analyse. Est-ce que ce gars-là peut faire le line-up? C'est quoi les trios pour commencer la saison? Tout le monde se met un peu devant la planche à dessin puis ben justement se prête au jeu. Et j'adore ça, là, moi qui ai un esprit analytique. Ben c'est certainement un des moments de l'année où je m'amuse le plus.
Oui, tu parles. Tu parles de planche à dessin, Nick, puis moi, je trouve ça intéressant aussi parce que, oui, on regarde les espoirs tout au fur et à mesure de la saison dernière, puis tout ça, mais on ne se le cachera pas, les joueurs apportent énormément de correctifs, surtout sur le plan physique pendant l'été, ils s'entraînent énormément, et là, c'est là, parfois, quand tu arrives au camp des recrues, par exemple, ou lors des matchs préparatoires, que là, tu vois certaines améliorations chez les joueurs. Est-ce qu'ils ont perdu du poids? Est-ce qu'ils en ont pris? Est-ce qu'ils sont plus rapides? Est-ce qu'ils sont moins rapides. En tout cas, c'est là que tu vois le travail que les joueurs ont pu mettre dans le gymnase en l'été.
Par exemple, j'ai des bémols des fois avec le fameux « best shape of my career ». Ça arrive souvent au début du camp d'entraînement.
C'est un classique, ça, Moussi, sa candidature. Mais c'est fun parce que c'est pas tous les joueurs qui arrivent au camp avec les mêmes intentions. Évidemment, ils aimeraient tout ça faire le club, mais il ne faut pas se faire de cachette. Il y a peut-être que 2-3 joueurs qui ont une chance de jouer des matchs dès le début de la saison. Mais la plupart, par contre, peuvent se prouver, peuvent marquer les esprits avant de retourner dans leur club respectif. Mais un qui a tout à gagner dans ce camp d'entraînement-là, c'est Mathias Norlinder. Probablement l'espoir le plus hypé présentement avec le Canadien de Montréal. Bon, on le sait, autant Romanov faisait tourner les têtes, faisait saliver les partisans, c'est au tour de Norlinder. Il s'amène au camp des Canadiens. Est-ce que vous croyez en ses chances, Norlinder, de faire le club, d'être là pour le match inaugural des Canadiens le mois prochain?
Ben moi, je dois l'avouer, puis ça fait longtemps. J'ai jasé avec lui une couple de fois, vous le savez. Écoute, j'aime beaucoup Norlinder. Et un mot pourquoi, c'est upside. Moi, je regarde un gars comme Alexander Romanov. Tu savais qu'Alexander Romanov allait jouer dans la LNH. Il y avait le côté, l'aspect physique pour ça. Il gardait les choses simples, relativement simples. Mais Romanov, je me questionne beaucoup sur son plafond, sur la limite de son potentiel. Est-ce qu'il va plafonner comme quatrième défenseur? Moi, je crois que oui. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose non plus. Tu sais, un quatrième défenseur, ça a quand même une très bonne valeur dans la LNH. Là. Mais quand je regarde du côté de Mathias Norlinder, là, je vois un potentiel qui est excitant. Je vois un gars qui a des habiletés assez uniques avec la rondelle, qui a une audace. Et moi, je pense aussi qu'on sous-estime un peu les compétences défensives de Norlinder. Il a un bon bâton. Il a un peu de chien, c'est pas le plus robuste, mais il y a quand même un peu de chien, et c'est un compétiteur. Alors oui, moi je crois beaucoup à Mathias Norlinder. Savez-vous quoi? Mathias Norlinder, là, ça va être la plus grosse surprise du camp d'entraînement. Il va émerveiller tout le monde, ça j'en suis convaincu. Mais savez-vous quoi? Parce qu'on a appris la leçon avec Jesperi Kotkaniemi, je suis persuadé que même si c'est le meilleur joueur au camp d'entraînement, on va le retourner ensuite.
Ben, moi, honnêtement, je pense que ce serait la meilleure décision. Il y a eu des erreurs chez les Canadiens de Montréal. chez les Canadiens depuis des années. On peut même remonter à Victor Mété, qu'on a peut-être fait jouer un peu trop tôt. Puis c'est drôle que tu dis ça, Nick, parce que tu regardes la formation des Canadiens, il y aurait une excellente opportunité pour Norlinder. C'est un peu une situation de Victor Mété. Il n'y avait pas vraiment de candidat en défense. Il y avait une ouverture. Il y en a profité pour se tailler un poste.
Kotkaniemi, c'était parce que Plekanec était en fin de carrière, puis on jugeait que pour gagner maintenant, Kotkaniemi est un meilleur troisième centre que Plekanec.
Exactement.
C'est pour ça qu'il a fait le club aussi, tu sais. C'est parce que ça servait le club dans le
court terme. Il avait un bon camp aussi,
ceci. Oui, non, il avait mérité sa place, mais c'est aussi parce que ça servait le club à court terme. Mais si on avait eu une option avec plus d'expérience, ben Kotkaniemi, il serait probablement retourné en Finlande.
Je te relance, Nick, parce que tu as mentionné que selon toi, il ne faut pas répéter la même erreur que Kotkaniemi. Et autant je suis d'accord avec cette information-là, je pense que c'est important de me positionner un peu en avocat du diable. Mathias Norlinder a quand même 21 ans. C'est pas un genou. Là. Il y a pas, c'est pas la même situation que Kotkaniemi. Je pense qu'il est plus prêt pour faire déjà le saut. Puis comme on vient de le dire, il y a un peu de la place en défensive. Il ne faut pas se fier non plus sur Wideman.
OK, ben en premier lieu, Norlinder, on sait, il n'a pas été repêché vraiment à son année de repêchage. Là. Il y a eu un développement plus tardif, donc on part de là. Il n'a pas encore, même s'il a le talent pour le faire, il n'a pas encore oblitéré ou dominé la Ligue suédoise. Okay, ça serait bien qu'il puisse le faire avant. Et si je regarde ça, là, OK, c'est bien beau, là. Norlinder commence l'année, il y a un rôle pour lui sur l'avantage numérique, mais dans 10-15 matchs, est-ce que Norlinder va jouer plus de 15 minutes? Est-ce que Norlinder va avoir un rôle qui est important à Montréal? Ça, je me pose la question. C'est facile de donner un rôle aux jeunes au début quand il y a un bon camp d'entraînement, mais quand ça va commencer à se corser, quand on va arriver dans les matchs qui comptent vraiment en fin de saison régulière, ça va être quoi le rôle de Mathias Norlinder? En Suède, là, on sait qu'il va avoir les top minutes, on sait qu'il va avoir d'énormes responsabilités. Pour moi, c'est un no-brainer. On va le ramener en Suède, on va le laisser dominer en Suède. Puis après, je veux dire, la transition va juste être tellement facile, ça va se faire naturellement.
J'aime ça t'entendre parler, Nick. C'est de la musique à mes oreilles. Là. On dirait que j'ai déjà utilisé ce discours-là dans le passé, un peu à tort, là, mais en tout cas, ça me plaît.
Oui, ben, pour Cole Caulfield, mais ça, c'est un espoir unique.
Mais t'as raison, Nick, parce que moi, j'ai pas envie de voir comme Romanov un Mathias Norlinder qui est laissé de côté plus souvent qu'à son tour, sous prétexte que c'est le jeune. Et comme Marty l'a dit à plusieurs reprises, je veux qu'il domine et qu'après ça, il rentre dans la Ligue nationale en pleine confiance. Puis je regarde ses chiffres. Oui, il joue à Frölunda. Oui, il joue dans une ligue qui est quand même, c'est pas la LHJMQ, mais pas du tout. Ouais. Mais il a seulement 10 points en 37 parties l'année dernière. Donc,
il y a eu des blessures aussi, c'est ça.
Exact. Puis je pense qu'il y a encore une année de contrat. Il n'y a rien qui presse. Et comme vous l'avez mentionné, le Canadien vient d'échapper à un énorme espoir en Jesperi Kotkaniemi, un peu parce qu'on l'a rushé. C'est évident que c'est un facteur là, parce qu'on l'a rushé dans la NHL. Donc, je pense qu'on ne fera pas la même erreur avec Norlinder cette année.
Mais au-delà du plan de développement, puis je pense que c'est différent à chaque joueur, là, mais dans le cas de Norlinder particulièrement, est-ce qu'il peut être dangereux? Puis là, Nick, tu parlais justement de lorsque les choses vont se corser, ça va être plus difficile. Et c'est là l'ennui avec lui. Sur le plan des habiletés individuelles, sur le plan de diriger l'avantage numérique, il est très efficace, d'autant plus que les Canadiens en ce moment, il y a peut-être une lacune au niveau justement des défenseurs un peu plus mobiles qui ont un impact en avantage numérique.
Absolument.
Avec la perte de chez Weber, ça n'aide pas vraiment. Donc là, tu pourrais être tenté de faire une place immédiatement à Norlinder s'il obtient 2 ou 3 ou 4 bons matchs préparatoires, lui donner une place tout de suite. Mais on le sait, les gars, lorsque la saison, plus la saison avance, plus c'est physique, plus c'est difficile. Et moi, le problème avec Norlinder, et je l'ai vu encore en Suède lors des dernières semaines, honnêtement, physiquement, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Mais je pense que tu n'as pas trouvé qu'il a pris du coffre un peu, lui, pendant les matchs préparatoires de Frölunda?
Il a pris du coffre, mais de là à être capable de se débrouiller un contre un, d'être bien positionné pour ne pas se faire contourner. Moi, j'ai trouvé que c'était difficile. Moi, j'ai trouvé que ce qu'il faisait très bien, il s'est énormément amélioré. Là, sa prise de décision est encore meilleure. Il prend des décisions rapidement. Je me souviens d'une séquence où il est à la pointe, puis il fait une genre de drop pass à l'ailier droit qui est juste à droite. Puis, tu sais, Ça, c'est des jeux exceptionnels. Il n'y a pas ouais. beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça.
C'est pour mais... ça qu'offensivement, il est plus efficace là, depuis justement le début du calendrier préparatoire de Folunda.
Oui, tout à fait. La Ligue des champions version hockey, là, il a 4 points, 4 matchs, puis il a super bien joué à ce niveau-là pour cette raison-là. Mais maintenant, sur le plan physique, moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés. Il échappe souvent son homme, il se fait déborder, il est souvent mal positionné. Ça permet aux joueurs de le déborder, de rentrer plus facilement au filet. Et je me suis amusé, les gars, à regarder un peu des séquences de l'entraînement des Canadiens hier. Et Norlinder m'a semblé, ça a vraiment été difficile, moi, j'ai trouvé, sur le plan physique, là, contre des joueurs un peu plus nord-américains qui sont plus habitués. Et encore là, ce n'est pas des joueurs de Ligue nationale. Là, mais je donnais un exemple, à un moment donné, il s'est retrouvé un contre Xavier Simoneau. Simoneau s'est retrouvé, puis je comprends que c'est un joueur qui est très combatif, qui est réputé pour ça. Mais c'est quand même un joueur de 5 pieds, 7 pouces qui devrait jouer dans la LHJMQ ouais. cette année. Et honnêtement, Simoneau l'a complètement dominé. Norlinder a vraiment... il a eu l'air un peu fou. Donc, c'est pour ça que moi, je dirais, c'est quoi, dans la même lignée que Nick, qu'il ait se développer à Frolunda, qu'il ait prendre de la confiance, qu'il domine complètement l'adversaire. Puis lorsqu'il reviendra à Montréal, il va être en pleine confiance. Puis ça va être beaucoup mieux que, ouais. qu'en ce moment, je pense.
Mais le problème avec Norlinder, puis tu sais, je lui ai parlé, sa personnalité, c'est un gars qui est hyper easygoing, il est calme, il prend son temps. Hein? Mais il va apprendre à être méchant à un moment donné sur la patinoire. Tu n'es pas là pour faire des cadeaux à l'adversaire. Quand il va apprendre à être un peu plus méchant dans les coins, à donner un peu des coups quand l'arbitre ne regarde pas, à jouer un peu plus sur la ligne, ben ça va l'aider. Parce que là, c'est sûr qu'il va se faire dominer physiquement en Amérique du Nord. Alors qu'en Europe, oui, on joue peut-être plus un peu en finesse. Là.
En début de conversation, Nick, tu as dit que Mathias Norlinder, ça va être le joueur qui va être le plus beau flash pour le camp, qui va vraiment se démarquer. Moi, je pense que dans un style complètement différent, celui qui va ressortir, c'est Kaelin Goulet, parce qu'il y a peut-être un style, justement, qui est plus simple. Il va faire les petits jeux facilement, ne se pose pas trop de questions, ferme bien la ligne bleue et physique. Puis moi, je pense que c'est un joueur qui va briller. On s'entend, je ne m'attends pas non plus à ce qu'il perce l'alignement, puis je ne veux pas non plus qu'il perce l'alignement. Mais est-ce que vous attendez à ce que Kaelin Goulet montre de belles choses là, dans ce camp d'entraînement?
Ouais, vas-y.
Moi, je m'attends honnêtement à le voir bien performer. Honnêtement, c'est son année de 19 ans. Habituellement, à 19 ans, c'est là que les joueurs prennent un pas de plus. Si tu veux, là, tu sais plus à quoi t'attendre. Ben là, je dis ça, il n'y a pas vraiment un cas d'entraînement, là, mais en tout cas, tu sais plus à quoi t'attendre. Ça fait 2 ans que tu es dans l'organisation. Il y a toujours une certaine progression. Et d'autant plus, pour avoir vu justement l'entraînement d'hier, Goulet est prêt, honnêtement, physique. Tu sais, je parlais de Norlinder sur le plan physique, avec qui c'était difficile. C'est arrivé lors de certaines répétitions qu'il était avec Goulet. Goulet, lui, il faisait vraiment le travail. Même parfois, il prenait l'homme à Norlinder. Lui, défensivement, ça va bien. Là, le problème de Kaelin Goulet, ben, ça revient à ce que je disais souvent, là, de lui donner le plus de confiance possible, de l'aider à se développer davantage offensivement, parce que je pense que c'est là le plus gros... Ben, pas un problème, mais il doit s'améliorer.
C'est même pas nécessaire qu'il apporte tant que ça offensivement.
Ben, aujourd'hui, oui. Là, mais Goulet, c'est surtout en plus que tu vois, il y a certains flashs qui montrent qu'il y a un certain talent offensif, mais il ne l'utilise pas tout le temps. Fait que moi, non, je stimulerais ça. Là, j'encouragerais ça. Là. Dans l'NH aujourd'hui, il faut que tu ailles un peu les outils dans ton coffre. Tu ne peux pas ne pas être capable de bouger à rondelle, même si tu es un défenseur défensif. Joel Edmondson, il est capable de faire une bonne première passe, Joel Edmondson.
Mais c'est exactement ça que j'allais dire. Attendez-vous pas à ce qu'Edmondson tire sur réception de la ligne bleue.
Non, mais Goulet, c'est pas Edmondson non plus. Là. Il y a un ceiling offensif à aller chercher par rapport à Edmondson. C'est ça qu'on va aller chercher en ce moment.
Bon, ouais, bon. Peut-être éventuellement, mais je pense que pour l'instant, défensivement, il y a vraiment un jeu qui est bien fait. Puis ça, je pense que c'est sa force. Puis tant mieux s'il mise là-dessus. Puis éventuellement, si l'aspect offensif vient, ce sera un bonus.
Ben, écoute, Goulet, c'est sûr qu'on d'après moi, ce gars-là aurait pu jouer une saison complète dans la Ligue américaine l'an passé. Il est mature à ce point-là. C'est ça qu'on va réaliser, qu'il est prêt de la LNH. Il ne faut pas qu'il joue tout de suite, mais il est prêt. Donc, on va réaliser ça. Mais jusqu'à dire que par rapport à Norlinder, c'est Goulet qui va nous émerveiller, ben là, je ne serais pas d'accord parce qu'on va remarquer que Goulet est mature, mais on ne va pas faire « wow » en regardant Goulet. Si on remarque Goulet, c'est peut-être un moins bon signe.
Mais c'est ça qui n'est qu'un bon point. Là, Nick, les partisans vont surtout remarquer les joueurs qui vont effectuer des jeux spectaculaires, des feintes, des buts spectaculaires, des gros lancers. C'est plus ça qu'ils vont remarquer. Kaelin Goulet, ben, c'est pas un joueur. sexy, comme on veut. Il y avait le, souvent l'étiquette lors de son année de repêchage de joueur old school, si tu veux, parce qu'il était davantage sur le plan défensif. Ça, c'est pas nécessairement sexy. Mais des gens comme moi qui aiment analyser les détails sont capables d'aimer ça aussi, je dirais. Là.
Non, exact. Un défenseur défensif, c'est comme un O-line au football. Là. Si tu n'entends pas son nom du match, c'est parce qu'il a joué un bon match. Puis je pense que Gouli, c'est un peu ça. T'sais, c'est pas le joueur qu'il faut qu'il fasse les highlight reels, mais c'est le joueur qu'il ne faut pas que ça passe trop souvent de son côté. Puis je pense que ça, il le fait bien. Par contre, là où est-ce que ça va être intéressant, je regarde ses chiffres. 7 matchs l'année passée avec les moins de 20 ans, 3 matchs avec le Rocket, 2 matchs avec Prince Albert. Pas joué beaucoup. Pas beaucoup de hockey sous la cravate. Donc là, ça va être intéressant cette année, parce que je ne m'attends pas non plus à ce qu'il passe l'alignement du Canadien, de le voir sur une longue saison, comment est-ce qu'il va se développer, puis où est-ce qu'il peut justement, comment il peut exploiter son potentiel.
Ben, c'est moins un enjeu pour Gouli, parce que c'est un gars qui a beaucoup de caractère, c'est un gars qui a du sérieux dans le gymnase. Alors, je pense pas que... Ben, c'est plus un enjeu pour un espoir qui n'a pas encore compris que ça va prendre la coche de plus dans le gymnase pour aller au niveau pro. Mm-hmm. Je pense que Gouli a déjà cerné ces aspects-là de la vie professionnelle de hockeyeur. Fait que ça devrait pas trop le nuire. Encore là, peut-être qu'il y aura une période d'adaptation, mais il y aura des scrimmages. Il va avoir le temps là, de se mettre les pieds dans le bain. Là.
Mais le point principal avec Kaylen Gouli, je vais être honnête avec vous, pour avoir vu la pratique d'hier, là. Si tu me dis, est-ce que Kaylen Gouli est capable de jouer dans un top 6 de la Ligue nationale en ce moment, je pense que je suis obligé de répondre oui. Parce que défensivement, il se débrouille bien. À un contre un, il neutralise souvent son homme. C'est quelqu'un quand même d'assez gros gabarit, se comporte bien. Est-ce que je veux le voir dans la Ligue nationale à 19 ans et qu'il devienne limité dans un rôle de 5e ou 6e défenseur parce qu'il s'habitue à jouer peu de minutes, à jouer davantage de ça défensivement et à être conservateur, ben là, la réponse, c'est non.
Hey, c'est ça.
C'est pour ça que je le renverrai dans l'Ouest.
Je vais surfer sur ce que tu as dit, justement, Marty. Luke Shen, c'est un défenseur qui était prêt à 18 ans, puis on l'a fait jouer à 18 ans avec les Maple Leafs. C'était un très bon espoir là, dans le temps. Là. Mais finalement, c'est devenu essentiellement un défenseur défensif de second ordre là, qui jouait souvent sur la troisième paire. Mais est-ce qu'on aurait pu développer un peu le jeu d'ensemble de Luke Shen si on avait été plus patient avec lui? Ça, c'est une autre histoire. Là. Déjà, tu es propulsé dans un rôle plus défensif à ton arrivée dans la LNH. Fait que qu'est-ce que tu développes? Ben, tu développes finalement juste ton aspect défensif du jeu. Alors que si tu as un peu plus de temps pour te développer, il y a quelques affaires que tu peux travailler, peux gagner un peu plus de confiance en tes moyens dans d'autres aspects du jeu. Là.
Il n'y a tellement rien de mal à retourner dans un rang inférieur. Là, regardez Owen Power qui a littéralement décidé de ne pas faire le saut directement dans la Ligue nationale parce que lui, quand il veut arriver, il veut être prêt, puis il veut rester là, puis il veut devenir sur la première paire défensive. Il ne veut pas justement être confiné dans une chaise inférieure parce qu'il a été amené trop rapidement là, dans la Grande Ligue. Je veux qu'on reste chez les défenseurs parce qu'on parle beaucoup de Mathias Norlinder parce que, bon, avec raison, mais il y a un joueur qui a été repêché seulement que 13 rangs derrière Mathias Norlinder, et c'est Jenny Fairbrother. Et lui, pourtant, on n'en entend pratiquement pas parler. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas parler plus que ça de Fairbrother, monsieur?
Ben, tout simplement parce qu'il n'est pas spectaculaire.
Ben, tel que... Ben,
mais est-ce que ça, gars, est-ce là, que mais ça s'avérait...
Je ne pourrais en parler tant que ça.
Non, mais est-ce que ça veut dire que c'est une mauvaise sélection ou est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment...
Non, voyons, je veux dire, il a été repêché où, lui, déjà, troisième, quatrième tour?
C'est troisième tour, c'est 13 rangs derrière
Fairbrother. Mauvaise sélection. T'es content s'il joue dans la LNH, là, c'est un grand succès, là, rendu là, mais c'est pas une mauvaise sélection dans le sens que... Ben, dans le sens que c'est un choix de troisième tour. Là.
Non, mais je comprends que Norlinder est plus vieux parce que, comme Marty l'a dit tantôt, il a été repêché là, comme étant un vieux, entre guillemets. Là. Mm-hmm. Mais ça reste que c'est le même repêchage que Fairbrother. Et pourtant, un semble cogner au port de la NHL, tandis que l'autre semble extrêmement loin. Je veux dire, à un moment donné...
Ça, c'est un choix de troisième tour. C'est aussi simple que ça. Là. Je veux dire, c'est une anomalie quand ce choix de troisième tour-là est hypé. Parce que sinon, tu prends... Tu mets ta ligne à l'eau, tu espères que ça morde, mais la plupart du temps, ça ne mord pas au troisième tour. Ça ne va pas devenir un joueur de la LNH. Il faut juste vivre avec ça. Donc, c'est juste un constat froid et réaliste. Puis, moi, je ne pense pas que c'est symptôme de quelque chose de plus grave. Là. C'est juste qu'on a pris une chance avec un gars avec certaines affaires intéressantes au troisième tour. Puis, finalement, on découvre que ça ne va peut-être pas devenir un joueur de la LNH. Là.
Mais tu sais, un peu comme Nick dit, là, je pense qu'il ne faut pas se scandaliser du fait qu'un choix de troisième tour des Canadiens ne jouera peut-être pas dans la LNH. Là. Je pense que lors des rondes 3 à 7, si tu veux, tu veux davantage prendre des chances, t'aimes des choses sur les, chez les gars, tu dis « OK, si on peut développer ça, ça peut nous donner un joueur de la Ligue nationale qui peut être quand même pas si pire que ça. » Puis dans le cas de Fairbrother, je pense que c'est un peu ça que tu essaies. Si ça fonctionne pas, ben gars, si tu regardes les statistiques des joueurs dans les tours plus tardifs, ben il y en a très peu qui atteignent la Ligue nationale. Maintenant, dans le cas de Fairbrother, plus particulièrement, honnêtement, je le dis souvent, les gars, pour atteindre la Ligue nationale, ça te prend une qualité exceptionnelle. Ouais. Norlinder, lui, c'est son avantage numérique, ça, la façon qu'il a à dynamiser l'attaque. Gourley, c'est peut-être davantage défensif. Fairbrother, malheureusement, il est quand même assez complet dans tout, mais il n'est pas exceptionnel dans rien. Mais il n'est pas très gros. Il a une taille correcte, sans plus, à 6 pieds 1 pouce. Il a un certain potentiel offensif, mais ce n'est pas un quart arrière en avantage numérique.
Il y a un tir qui est lourd.
Exact, mais tu sais, c'est pas Cole Caulfield non plus, puis c'est pas Mike Hoffman.
Non.
Vas-y, Marty.
Ben, je voulais simplement dire que même défensivement, il est capable de tenir son bout. Tu sais, il va jouer à Laval cette année, puis il va bien se débrouiller.
Ben, moi, c'est ça que je veux dire. En fait, je pense que ça va donner un bon joueur dans la Ligue américaine. C'est pas une mauvaise chose. T'en as besoin, des joueurs de même.
Ceci dit, je lançais pas du tout la pierre à Fairbrother. Ah, c'est non, beaucoup non, plus non, pour c'est signaler le fait à quel point que Norlinder s'est démarqué rapidement, parce que perdons pas de vue que ce sont des choix de 2019. Et défensivement, habituellement, les défenseurs, ça prend plus de temps à se développer. Donc, c'est tout à fait normal là, que Fairbrother, en tant que choix de troisième tour, n'est pas considéré là, pour déjà atteindre la Ligue nationale de hockey. Mais il va être intéressant à suivre tout au long de son année à Laval. Ça, je vous rejoins là-dessus.
Mais tu as un excellent point, Nick, sur le fait que ça pourrait devenir un bon vétéran de Ligue américaine. Puis, je le sais, désolé, on en a déjà parlé. Je sais que tu te portes à faux complètement contre cette théorie-là. Là.
Ben, une fois que tu l'as déjà repêché, c'est correct, mais au moment du repêchage, si tu te contentes de ça, moi, je j'achète pas ça.
Non, mais je veux y aller davantage sur le fait, moi, Fairbrother, lorsque je le regarde jouer, puis j'ai jamais parlé à personne personnellement pour savoir est-ce que c'est un bon jeune, est-ce que c'est un leader, etc. Mais il me semble être un assez bon leader. C'est quelqu'un qui a pas froid aux yeux, qui est capable d'aller dans le trafic un petit peu. Mais tout ça pour dire que si Fairbrother joue à Laval, supposons, 3 ou 4 ans, puis que tu l'aides à se développer aux côtés des goalies ou n'importe quel défenseur, Norlinder, je pense, devra passer par Laval à un certain moment, ben, si ces joueurs-là travaillent aux côtés d'un Fairbrother qui leur montre la voie à suivre, qui leur montre les exemples de leadership, comment se comporter comme un professionnel, lorsque c'est les gros espoirs qui vont avoir joué avec Fairbrother vont se retrouver dans la LNH, tu vas être davantage équipé que si tu débarques dans la Ligue américaine et que c'est plein de joueurs individualistes qui ne veulent pas t'aider. Dans l'exemple que j'avais souvent entendu, puis là c'est drôle parce que c'est maintenant un régulier de la Ligue nationale, mais c'était Alexandre Carrier à Nashville. Jean-Philippe Blaude l'avait repêché, puis s'était dit il atteindra peut-être pas la LNH, mais au moins il va aider nos gros espoirs qui vont passer par la Ligue américaine à savoir la marche à suivre et savoir davantage comment se comporter. Et lorsqu'ils vont débarquer dans la LNH, ben, ils vont être bien meilleurs.
Ben, il faut que tu bâtisses une culture d'entreprise. Hein, fait que, je peux comprendre les mérites de cette stratégie-là.
Exactement. Ouais, comme des moves comme Raphaël Harvey-Pinard et Xavier Simoneau, là, au-delà de leur potentiel de peut-être atteindre la Ligue nationale, au moins, c'est des modèles à suivre pour leur éthique de travail. Puis ça, ça peut juste inciter les autres joueurs à pousser dans la même direction. Fait que moi, ça, j'ai pas de problème avec ça, mais... D'ailleurs, parlons-en. Xavier Simoneau, là, lui aussi, c'est son premier camp d'entraînement avec les Canadiens. Bon, Marty, tu l'as effleuré un petit peu tout à l'heure. Là, il a battu Norlinder 1-1. Et ça, je pense que ce n'est pas une surprise pour personne. C'est un joueur qui est combatif. Tout le monde, tout au long de sa carrière, l'a remis en question, lui a dit qu'il ne parviendrait pas. Donc, je ne vois pas du tout Xavier Simoneau s'arrêter ici. Moi, je m'attends à de belles choses. Puis, c'est un des joueurs que j'ai le plus hâte de voir en action.
Ben, c'est ce que je dis souvent avec les petits joueurs là, comme Simoneau, c'est que le fardeau de la preuve repose sur toi. Maintenant, c'est à toi de prouver que malgré ta petite taille, tu appartiens à la LNH. Et ça peut prendre beaucoup d'années parce qu'un petit joueur va devoir en faire beaucoup plus pour convaincre les dirigeants que c'est une option pour la LNH qu'un plus gros joueur. Donc, Simoneau, là, peut-être qu'il va devoir dominer la Ligue américaine pendant 2 ou 3 ans avant d'avoir sa chance. Et quand il va avoir sa chance, il est mieux de la saisir là, parce qu'elle va peut-être pas revenir. Alors, c'est très inspirant là, comme histoire à suivre. Puis, je ne sais pas s'il va réussir, je lui souhaite, mais il va travailler fort en Moses, en tout cas, pour y arriver. Là.
Moi, j'ai l'impression qu'il va réussir. Honnêtement, là, il a le cœur gros comme le centre, Bell. C'est fou. Là. Il est excellent. Puis je sais, le fan numéro 1, Xavier Simoneau, est dans l'écran à gauche. Là. Et même à 16 ans, comme il retenait déjà l'attention. Ça a toujours été sa taille, le problème. Mais il est tellement talentueux, il est tellement combatif. Et je pense qu'il est plus talentueux même que des joueurs comme Harvey Pinard ou même Antoine Roussel, là, pour utiliser un vétéran qui est passé un peu par la même voie. Là. Je pense que Simoneau, il est même plus talentueux que ces gars-là. Ouais. La seule chose qu'il doit travailler, Xavier Simoneau, je l'ai constaté un peu hier, là, c'est son coup de patin. Il doit travailler davantage son coup de patin, mais en retournant à 20 ans à Charlottetown dans la LHJMQ, je pense que ça va l'aider. Ils ont une bonne équipe là-bas. Il va être capable de produire, puis après ça, ben, il va débarquer à Laval, il va être plus équipé. Moi, ce que j'ai hâte de voir, il y a eu certaines répétitions avec Harvey Pinard hier, puis on s'entend, ces deux gars d'à peu près du même style. Je trouvais que ça... Lors des rares fois qu'ils ont joué ensemble, là, je trouvais que ça connectait quand même pas mal. Donc, moi, j'ai hâte de voir les matchs contre les Sénateurs d'Ottawa demain. Là. Si, je ne sais pas ce que Jean-François Hull va faire, là, ou le personnel d'entraîneur des Canadiens, mais si on décide de les jumeler ensemble, et j'ai hâte de voir là, s'ils font des flamèches. Je pense que là, c'est là que Simoneau pourrait gagner davantage de points au sein de l'organisation, puis ça peut simplement l'aider pour la suite.
Morgan, tu l'as mentionné, mais pour les gens qui ne sont pas au courant, oui, le Canadien, les recrues affrontent ceux des Sénateurs demain dès 16h. Moi, Simoneau, là, honnêtement, une projection dans quelques années, je le vois un peu comme le rôle d'Alex Belzile, un genre de gars qui a certains outils dans son coffre, mais qui peut arriver, qui peut venir te donner quelques matchs. Ce rôle-là que Belzile a été employé là, dans les dernières saisons avec le Canadien, je pense que Simoneau pourrait remplir là, ces fonctions-là dans un avenir à moyen terme. Martin, tu l'as dit, il a été changé à Charlottetown de Drummondville. Il va jouer avec William Trudeau, qui a été un choix des Canadiens de Montréal lors du dernier encamp. Quatrième choix au total. Bon, évidemment, William Trudeau là, ne percera pas l'alignement du Canadien là, dès la prochaine saison, mais ça va être intéressant à surveiller un autre défenseur là, qui a été repêché par l'organisation du Canadien.
Ouais, ben moi, j'ai vraiment hâte de le surveiller. La raison est simple. Je l'avais dit lorsqu'il a été repêché, là. Je trouve que c'est un pari qui est super intéressant parce qu'on dirait que sa courbe de progression se vient tardivement. Pour vous rappeler un peu, là, c'est un choix de 11e tour dans la LHJMQ. Donc, ouais. Pas 11e tour LHJMQ, là, c'est pour vous dire, donner une idée à quel point c'est tardif. Et habituellement, honnêtement, il y a des équipes dans ces coins-là qui ne repêchent même pas. Là. Et lui, il est passé dans une énorme transaction à l'époque, c'est qu'il envoyait Pierre-Olivier Joseph à Drummondville. C'est un choix des voltigeurs, en fait. Il a été échangé à Charlottetown, puis ses statistiques là, au niveau Midget Espoir, et là c'était Midget Espoir, on ne jouait même pas Midget 3, 12 points en 31 matchs, là, il y avait des défenseurs dans son équipe qui étaient voués à des bien meilleurs avenirs que lui, mais depuis ce temps-là, il y a constamment une progression au point où l'année dernière, il y a eu une très très belle année, 31 points en 40 matchs, puis je l'ai déjà mentionné, mais tout au long de l'année, j'ai trouvé que c'est amélioré. Lorsqu'il est débarqué en série, même si tu regardes ses statistiques, là, c'est pas fameux, mais c'était pas nécessairement de sa faute, les problèmes défensifs. Lui, il se comportait super bien. Il avait un très, très bon sens du jeu. Toujours le bon sens de l'anticipation. Coupait les jeux. Profitait de l'espace pour transporter la rondelle. Et les séquences que j'ai vues hier, il m'a semblé avoir pris du coffre. Il faudrait que je le regarde peut-être un peu plus attentivement. Il m'a semblé avoir pris un peu de masse. Et honnêtement, dans les batailles un contre un, de la façon qu'il bougeait la rondelle, il s'en tirait pas si mal que ça. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir dans ce camp-là, comment il va se comporter là, face aux meilleurs espoirs, justement, comparativement à des Norlanders ou des goalies de ce monde. Là, j'ai vraiment hâte parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut surprendre.
Moi, j'ai hâte aussi parce que l'année dernière, il évoluait dans la division maritime. Et là, cette année, dans une année plus normale, avec une diversité, affronter des équipes qui sont plus fortes, parce qu'on le sait, l'année dernière, Charlottetown était peut-être la grosse puissance là, dans la saison régulière de la GMQ parce qu'ils affrontaient des clubs qui étaient plus faibles. Donc là, moi, j'ai hâte de voir à quel point il va s'améliorer à ce niveau-là. Bon, pour les gens qui ne le savent pas, évidemment, Logan Mailloux n'est pas présent à ce camp-là pour des raisons évidentes. Je pense qu'on n'a pas besoin de retourner sur ce dossier-là. C'est pas le seul qui est absent. Il y a quand même des absents de taille. Là. Je pense à Jaden Struble, Sean Farrell, Jordan Harris et Luke Tuck, évidemment, pour la règle NCAA, là, ne peuvent pas participer. Un peu décevant quand même, là, mais cette règle est en place, donc c'est comme ça. Mais il y a des joueurs que j'aurais aimé ça voir évoluer, mais ce n'est malheureusement pas possible. On passe de Trudeau à Riley Kidney, qui lui aussi a été repêché l'année dernière par le Canadien. Marty, tu avais fait un beau vidéo. D'ailleurs, les gens qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. Riley Kidney, choix de deuxième tour du Canadien de Montréal. Est-ce que vous avez des attentes envers lui? Est-ce que c'est un joueur qui pourrait en surprendre plus d'un là, dans le camp des recrues?
Mais moi, j'ai vraiment. Ben, j'ai je m'attends pas nécessairement à quelque chose de particulier. Je pense, bien honnête. Puis je pense qu'il y a un avenir. Je pense simplement qu'il ne va pas ressortir nécessairement dans le cas des recrues. Je peux me tromper. Mais ce que les gens peuvent s'attendre à voir de Riley Kidney, c'est vraiment sa créativité. Puis son sens de hockey un peu. Là. Vous allez voir lorsqu'il a rondelle, là, puis. Devrait le montrer à quelques reprises. Là. C'est quelqu'un qui aime prendre son temps, prendre son temps pour développer les bons jeux, attendre que les joueurs soient bien placés. Il aime souvent tourner sur lui-même en zone neutre jusqu'à ce qu'il y ait une ouverture d'effectuer une entrée de zone ou de repérer quelqu'un. Là. Il fait ça quand même assez souvent. C'est pas mal la façon qu'il joue. Là. Je te disais qu'il peut être. Les gens pourraient l'apprécier sur un point de vue spectaculaire. Pour cette raison-là, c'est quelqu'un qui a quand même une bonne vision de jeu, là, puis c'est quelqu'un qui alimente beaucoup. Ça, c'est à surveiller dans le cas de Riley Kidney, je pense.
Oui. Mais il y a aussi Joshua Roy, moi, que j'ai bien hâte de voir à l'œuvre. Il y a eu une espèce de saga là, au repêchage. Il avait critiqué un peu les Sea Dogs pour la nutrition, si je me souviens bien. Il avait critiqué son ancienne organisation un peu, puis il disait qu'il était mieux nourri, je pense, avec Sherbrooke, c'est ça, avec le Phoenix. J'ai hâte de le voir là, parce que c'était une sélection intéressante, puis je pense que c'était aussi la bonne sélection à faire pour les Canadiens. Mais là, c'est parce que les gens vont passer, là, Joshua Roy, à l'époque, c'était le gros prospect, il était une grosse sélection dans LHJMQ, ben, il ne faut pas penser non plus que c'est un joueur au talent électrique à tout casser. Là, je pense que c'est devenu davantage un gars qui a beaucoup d'outils et un bon marqueur.
Ouais, mais quand même, moi, de le voir glisser jusqu'en cinquième ronde, moi, j'étais vraiment sur le derrière. Je m'attendais
pas. Les recruteurs sont pas stupides non plus.
Non, je sais, mais dans le sens que j'étais content, moi, je le voyais plus haut dans mon classement de que le Canadien soit capable de mettre la main dessus. Si tu combines c'est sa saison à Saint-John et sa saison à Sherbrooke, qui est à un point par match. Il est 35 en 35. Donc,
on s'attend à ce qu'un attaquant fasse ça, je veux dire, à son année de repêchage, un bon attaquant, un bon espoir.
Il faut prendre en considération aussi là, que là, ça a l'air de rien, là, mais à Sherbrooke, il n'y avait pas nécessairement une grosse équipe non plus. Là. Il était pratiquement tout seul avec un joueur comme Xavier Parent ou Justin Gill, là, mais ça ne pleuvait pas de talent en attaque. Donc, c'est encore plus exceptionnel qu'il a réussi à amasser pratiquement un point par match.
Oui.
J'aimerais ça qu'on parle de Jesse Ilonen parce que
c'est
complètement différent là, comme situation. Là, on passe d'un joueur qui a été repêché l'année dernière à un joueur qui a joué dans la Ligue nationale un match avec le Canadien l'an dernier. Moi, c'est un joueur que je vais surveiller parce que d'entrée de jeu, je disais qu'il y a peut-être 2-3 joueurs qui ont des chances. Personnellement, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse le club parce qu'il y a trop d'alliés. Mais c'est un joueur qui est capable. On verra comment la situation va évoluer, mais c'est un joueur qui a tout à gagner avec ce camp-là.
Mais moi, je note que Rob Ronage a dit pendant sa dispo média que Ilonen devrait disputer des matchs à Montréal cette saison. Et c'est quand même pas peu dire parce qu'on sait que les Canadiens ont beaucoup de profondeur. Ils risquent d'avoir des blessures, mais ça veut dire qu'on voit vraiment Ilonen dans notre soupe à Montréal. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que Ilonen, là, j'avais un peu des doutes par rapport à son développement, par rapport à son avenir à un certain moment, parce que dans la Liga finlandaise, ça allait plus ou moins bien pour lui, mais il jouait avec une organisation qui en arrachait, les Pélicans de Lahti, si je me souviens bien. C'était peut-être pas le meilleur environnement pour lui, mais arrive dans la Ligue américaine, et qui est une ligue qui est quand même une coche au-dessus là, de la Liga finlandaise, et il jouait beaucoup mieux. Et moi, ce que je pense, c'est que, ironiquement, le style nord-américain convient beaucoup plus à Ilonen que le style préconisé sur les plus grandes patinoires. Parce que Ilonen, il pouvait avoir un style beaucoup plus linéaire. C'était un excellent patineur. Il fonçait, il se compliquait pas la vie. On dirait que ça simplifiait son jeu. Ça faisait de lui un joueur plus hargneux, plus impliqué dans le match. Il y a beaucoup de qualités que j'aime, Ilonen. Et il y a un engagement physique insoupçonné, là. Il y a plus d'engagement physique qu'on pourrait le croire dans son jeu, même si c'est pas le plus gros joueur. Il y a beaucoup d'aspects de son jeu que j'aime. Je pense vraiment qu'il y a un certain rôle à avoir, là. C'est pas sur le troisième trio à long terme pour les Canadiens, ça va être sur le quatrième trio parce qu'il y a tellement un bon coup de patin qu'il peut avoir un rôle en désavantage numérique aussi. Là.
Mais tu sais, faut pas oublier non plus, là, tu parles d'Ilonen qui était peut-être moins efficace en Liga finlandaise, mais. Si on retourne l'année dernière, il y avait quand même 20 ans. Là, 20 ans, ça, c'est possible là, que ce n'est pas nécessairement évident au niveau de la Liga. En plus, avec son style, moi, je trouve que c'est davantage un joueur qui est complet, là, qui n'a pas beaucoup de défauts, même s'il a un très, très bon coup de patin. Moi, je trouve que c'est
ce qui est. Il y a un bon tir aussi.
excellent tir. Mais tu vois, ouais. Moi, je pense que son tir dans la LNH, même s'il y a un très bon tir, je pense que ça va moins ressortir parce que ses habiletés offensives peuvent ressortir dans la Ligue américaine, dans un calibre inférieur. Dans la LNH, je pense que là, ça va peut-être être un peu plus difficile là, parce que là, ça va un peu plus vite. Les joueurs sont plus positionnés pour bloquer des lancers. Puis c'est l'instinct offensif, savoir bien où bien te placer aussi. Puis je dis pas qu'il va pas marquer des buts avec des gros lancers, mais peut-être moins que dans les autres. Là, c'est pas ça le débat. Là. Mm-hmm. Mais dans le cas de Ilonen, moi, je pense que c'est ça qui l'aide au niveau nord-américain. C'est qu'il est très complet. Il y a beaucoup d'outils de tous les sens. Et en plus, il y a le coup de patin, ce qui est probablement la facette de jeu numéro un à avoir dans une ligue de vitesse comme la Ligue nationale. Moi, tu parles, Nick, des propos de Rob Ramage. Je me suis amusé à faire une genre de prédiction. Quelle serait la formation des Canadiens? Et également, qui jouera à Laval? Et forcé d'admettre, en regardant les forces en présence, que s'il y a un ou deux blessés chez les Canadiens, ben c'est pas très long que c'est Ilonen qui est rappelé. C'est probablement le premier ou le deuxième rappel, moi, selon moi. Donc,
ben moi, dans ma tête, c'est le premier. Là.
Ben, ça dépend d'une divergence d'opinion. Tu vois, moi, dans mes prévisions, il y a des gens qui placent Belzile à Montréal. Moi, je l'ai placé à Laval. Donc, lui, OK.
Belzile à Montréal, pour commencer. Ah, comme 13e attaquant.
Genre. Comme 13e attaquant, oui, exactement. J'ai vu certaines listes là-dessus. Je te dis pas que je suis d'accord avec ça. C'est pas point que moi, je le place à Laval. Mais bon, si tu as besoin d'un gars de 4e trio qui joue peut-être un peu plus robuste, qui va jouer 5 ou 10 minutes, qui va pas se plaindre de son rôle, ben là, ça peut peut-être être Belzile. Mais tu vois, si, puis je le souhaite pas, là. Mais si un gars comme Cole Caulfield se blesse, par exemple, et que tu as besoin d'un gars peut-être un peu plus capable de jouer offensivement, si tu veux, même si c'est pas Caulfield non plus, ben là, ça peut-être qu'Ilonen là, devient une option plus plausible que qu'Alex Belzile. Donc, pour ça, peut-être qu'on y rappelle.
Intéressant, mais dans ton alignement, Marty, puis je veux pas nécessairement qu'on parte là-dessus parce qu'on veut plus axer ça sur le camp des recrues, mais est-ce que Ryan Poehling fait la formation du Canadien?
Mais c'est vraiment embêtant, je te dirais. Moi, je l'ai... C'est parce que j'aime beaucoup Mathieu Perrault. J'ai du mal à voir Mathieu Perrault qui ne jouera pas dans un top 12. Il a une bonne saison à Winnipeg la saison dernière. Je suis obligé de lui faire une place sur le 4e trio. Et là, c'est pour ça que Poehling se retrouve à Laval. Mais honnêtement, là, on verra bien au camp. Là. Et je suis un peu déchiré. Là. Je suis pas une prédiction, je suis très convaincante là, de dire que Poehling va commencer la saison à Laval. Là. Je pense que la logique veut qu'il joue à Montréal, mais... J'aime trop Mathieu Perrault pour l'écarter de la formation. Ouais.
Vois, l'affaire, c'est que Poehling, je pense que les gens se sont fait des idées, ils se sont dit « Ah, Poehling, ça va être un Philippe Dano, ça va être un troisième centre. Hein, » Mais je sais même pas si Poehling a ses habiletés offensives-là. Honnêtement, j'ai des doutes sur ses habiletés offensives. Là, il produit dans la Ligue américaine, mais je sais pas si il est capable de produire sur une base semi-régulière dans la LNH. Pas que c'est un mauvais joueur, mais je pense que je pense qu'il est un peu limité et je le vois mal avoir la production que Dano avait, lui, dans ses belles années à Montréal. Alors, je pense qu'on doit peut-être un peu tempérer les attentes là, à l'endroit de Ryan Poehling. Je le vois surtout là, à long terme comme un troisième centre, mais du côté défensif. Là.
Moi, je ne tempère pas du tout les attentes et je me range du côté des gens qui le placent à Montréal. Moi, je le vois, honnêtement, sur le troisième trio. Moi, j'espère qu'il amorce la saison avec les Canadiens. C'est un joueur qui est capable. Il a eu une bonne fin de saison l'année dernière à Laval. Et cette année, le Canadien est bâti avec des ailiers. Honnêtement, le top 9 d'ailiers, c'est peut-être dans les 5 meilleurs de la Ligue nationale. Fait que tu peux te retrouver avec un Mike Hoffman, un Brendan Gallagher, un Tyler Toffoli, un Josh Anderson, un Cole Caulfield, un Jonathan Drouin. Si Ryan Poehling, parce que dans ma tête, ça va être Armia, Lekkonen, Evans, le quatrième trio. Là. Si Ryan Poehling est capable de se retrouver dans la chaise de troisième centre, il va être avec des ailiers qui vont être capables de faire produire et qui vont aussi l'alimenter en contrepartie. Donc, il devrait être capable de ramasser des points, qui va être capable de participer à des buts. Moi, je pense qu'il est capable. Oui, c'est sûr que là, il y a Cédric Paquette, il y a Mathieu Perrault, il y a d'autres joueurs là, qui seraient laissés de côté. Mais dans ma formation à moi, Ryan Poehling commence la saison à Montréal l'an prochain. Mais l'avenir nous le dira. Et le camp d'entraînement aussi nous le dira. Là, il y aura plein d'éléments de réponse là, qui vont être fournis à ce moment-là. Ouais. Puis on en saura plus.
Il va y avoir des blessés aussi. Là. Je pense que selon moi, c'est un peu la philosophie de Marc Bergevin également, là, de se dire, sais-tu quoi, je prends un Mathieu Perrault qui, pour l'instant, n'est peut-être pas de la formation. Et pour avoir déjà parlé à Mathieu Perrault, je sais que c'est quelqu'un de très fougueux, d'intense, qui adore le hockey. Je comprends pas du tout les styles parce qu'il est beaucoup plus petit, mais au niveau de la passion, ça ressemble beaucoup à un Corey Perry. Donc, lui, je me dis, okay, est-ce qu'il veut tellement jouer à Montréal qu'il est prêt à être 13e attaquant au départ? Ben, puis dès qu'il va avoir un blessé, il va rentrer dans la formation puis il va jamais sortir.
Ben, je suis sûr que Marc Bergevin, il a pitché exactement la même façon que Corey Perry. Écoute, je te garantis pas une place, mais je vais compter sur toi, puis éventuellement, tu vas être utilisé, puis ça va être à toi à prouver que tu as ta place dans l'alignement. Je pense que ça va être le même pattern.
Les gars, si je veux dire, après avoir vu jouer Mathieu Perrault dans la série contre les Canadiens, en voyant ce joueur-là, j'ai de la misère à voir comment il ne peut pas être dans la formation du Canadien pour commencer la saison. Justement, raison de plus. Là. Tu viens lui donner encore plus de crédit, en fait. Là.
Mais tu as un bon point, Nick. Je ne sais pas si vous avez porté attention au match des Canadiens, puis pas en série, là, mais dans la saison, Canadien contre Jets, Mathieu Perrault, il marquait régulièrement, puis c'était souvent un des meilleurs joueurs des Jets. Je vous le dis, pour y avoir souvent parlé, pour avoir parlé à des gens qui le connaissent, c'est un gars extrêmement passionné. C'est le genre de gars, il aurait pu jouer dans la moitié des équipes de la Ligue nationale, mais probablement qu'il a choisi Montréal parce qu'il voulait vraiment jouer avec les Canadiens, probablement l'équipe de son enfance. Moi, je suis convaincu de ça.
Oui, mais quand tu dis qu'il performait contre Montréal, comme Anthony Manta performe contre Montréal, comme Jean-Gabriel Pageau performe contre... Tu sais, je veux dire, il y a des joueurs qui, contre certaines équipes, se sentent plus à l'aise ou sont plus motivés. Moi, Mathieu Perrault, je ne suis pas son plus grand amateur et je le trouve fragile. J'espère qu'il va être capable de rester en santé. Il y avait une blessure par le passé qui l'empêchait de jouer au centre. Là, ça pourrait... c'est toi, Nick, je pense qu'il me disait qu'il était revenu à 100%.
Il ne prenait pas des mises au jeu à cause d'une blessure, là, mais de ce que j'ai compris, il va pouvoir en prendre à nouveau là, cette saison. Là, fait qu'il va pouvoir jouer au centre.
Okay. En tout cas, ça va être intéressant à suivre. En tout cas, Marc Bergevin s'est donné des options là, sur la glace si jamais il arrive un pépin. Puis il y a même une rumeur là, pour Galchenyuk. Là. Donc, on verra.
Je veux même pas qu'on donne de l'attention à ça.
Honnêtement, je regarde l'organigramme des Canadiens autant à Montréal qu'à Laval. Puis Laval, on va peut-être en parler tantôt, là, mais vous devriez voir que c'est quoi la formation du Rocket de Laval. C'est complètement fou à quel point ils ont de la profondeur. Ils ont donné des contrats à plein de joueurs qui ont des matchs dans la Ligue nationale derrière la cravate. Puis honnêtement, il y en a certains, je ne suis même pas certain qu'ils vont être capables de jouer à Laval. Là. Pas à Montréal, à Laval. Ouais. Donc, comme tout ça pour dire que Galchenyuk, que je ne suis pas sûr qu'il y en ait seulement une place pour lui.
Je faisais une blague. C'est sûr que ça n'arrivera pas. Là.
Je le sais, mais je voulais simplement préciser que c'était un peu... Est-ce qu'il y a des gens qui adoreraient voir ça? Surtout, j'ai vu une vidéo pas plus tard que ce matin là, de lui qui s'entraînait, qui est encore dans une forme resplendissante, mais la réalité, c'est qu'à Montréal, il n'y a pas de place présentement. Il n'y a vraiment pas de place.
On parle de caractère, puis de joueurs, puis d'éthique de travail. Puis j'enlève rien à cette attitude, Galchenyuk.
Éthique de travail, j'ai jamais eu rien à reprocher à Galchenyuk. C'est un travailleur acharné.
Peut-être, mais ça reste que c'est tout un joueur qui manque un peu de sérieux à l'extérieur de la patinoire, puis c'est pas quelque chose que Marc Bergevin recherche. Mais bon, je pense qu'on a assez fait le tour du dossier. J'aimerais ça qu'on parle un peu de Yann Michak, parce que l'an dernier, il a quand même joué plusieurs parties, là, une vingtaine avec le Rocket. Il avait été quand même
correct.
Je dirais pas jusqu'à dire beige, là, mais correct. Là. Il avait marqué deux buts. Là.
C'était trop tôt pour lui, en fait.
Ouais, c'était peut-être un peu tôt. Est-ce qu'on peut s'attendre à une bonne progression dans son cas? Parce que lui, il n'ira pas jouer à Trois-Rivières. Il va jouer avec le Rocket.
Je sais qu'il y a un bon enthousiasme là, pour Yann Michak chez les amateurs du Canadien, mais honnêtement, je me vois pas là-dedans. Moi, je suis un peu indifférent par rapport à Yann Michak. Là. Il me laisse ni chaud ni froid.
Je t'ai vu grimacer, Marty. T'es pas convaincu qu'il y a une place assurée à Laval cette année?
Mais c'est parce qu'il a 19 ans, puis j'ai vu des commentaires de Trevor Timmins cet été qui a pas mal laissé sous-entendre qu'il allait retourner dans la Ligue junior de l'Ontario. Il joue avec les Bulldogs d'Hamilton et petite histoire, là, en faisant mes recherches hier, je suis tombé là-dessus, je me souvenais plus nécessairement de ça. Mais le propriétaire des Bulldogs d'Hamilton, c'est Michael Andlauer, qui est également actionnaire minoritaire des Canadiens de Montréal. Donc, il y a peut-être un intérêt également de faire gagner l'équipe, là, de renvoyer un joueur talentueux comme Michak, puis c'est bon. Puis honnêtement, ça va être bon également pour son développement. Pour la même raison qu'on parlait de Gauley tout à l'heure. Je suis d'accord avec Nick, là, moi Michak, je ne vois pas vraiment... Il y a un talent offensif, mais pas pour l'amener au niveau supérieur. Dans le junior, ça va être correct, mais dans la LNH, je ne suis pas certain. Mais si tu veux lui donner le plus de chances possible de développer ses talents-là, je pense que tu es mieux de l'envoyer dans la Ligue junior de l'Ontario, qu'il domine complètement, qu'il produise vraiment beaucoup. Il va retourner au championnat mondial de hockey junior. Là, tu t'attends à ce qu'il domine vraiment là également. Par la suite, il va être davantage en confiance.
Oui, parce que Yann Michak, c'est un choix de deuxième tour en 2020. Là. Honnêtement, il ne faut pas give up dessus. Il faut continuer à mettre les efforts pour espérer qu'il atteigne le potentiel pour la raison pour laquelle on l'a repêché aussitôt.
Oui, exactement. Ouais, je crois que les gens oublient peut-être un peu aussi que c'est un joueur de 19 ans. Là, il a joué dans la Ligue américaine l'année dernière parce que c'était une année complètement spéciale. Puis là, il y a eu l'autorisation d'aller jouer à Laval pour tout simplement avoir du temps de glace. Mais la réalité, c'est qu'il aurait été dans la Ligue junior de l'Ontario l'année dernière aussi. Il faut prendre ça en considération. Mais dans le cas de Michak, par contre, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, on disait qu'il avait, il manquait de force physique. Son talent ne ressortait pas nécessairement. On disait, lui, il aurait gagné à jouer au niveau junior. Tu vois qu'il n'est vraiment pas prêt au niveau physique. Mais honnêtement, j'ai trouvé, pour l'avoir vu hier, que physiquement, il est beaucoup mieux. Il a pris une coche au niveau de son coup de patin. Il est un peu plus gros, il se débrouille beaucoup mieux dans les coins. Honnêtement, là, seulement là-dessus, là, je pense qu'il a eu un bon été à Michak. Je pense qu'il a travaillé, puis j'ai vu une belle progression, là, du moins, là, pour se développer sur le plan de la maturité physique.
Mm-hmm. Ça va être intéressant à surveiller aussi le fait que c'est plus Joël Bouchard là, qui est l'entraîneur du Rocket, mais c'est maintenant Jean-François Hull. Ça, c'est quand même un bon changement dans l'aspect de développement des joueurs. Là. Le Rocket a quand même gagné sa division l'année dernière. S'il y avait eu des séries éliminatoires, aurait été en bonne posture pour faire un bon bout de chemin. Là, le fait qu'on change de capitaine à la barque, est-ce que ça va avoir une grande influence? Est-ce qu'il y a des joueurs qui... Y a-t-il des joueurs qui vont en bénéficier? Y a-t-il des joueurs qui vont peut-être perdre un peu de leur lustre parce que ce ne sera pas le même entraîneur derrière le
banc? Ben, moi, ce que j'espère qu'on va garder, c'est le système de Joël Bouchard parce que c'est un système que j'apprécie beaucoup. Si tu regardais les matchs du Rocket l'an dernier, tu auras rarement vu une équipe aussi difficile à affronter, aussi organisée, aussi acharnée. Ils ont vraiment un beau système de jeu et je pense que tu devrais garder ces éléments-là en place. Maintenant, personnellement, quand on parle de méthode là, pour un entraîneur, de façon de communiquer avec les joueurs, de façon même de se comporter devant les médias, je pense que j'aime plus les méthodes et le modus operandi de Jean-François Hull, personnel.
Mais il ne faut pas oublier non plus, là, oui, on a changé d'entraîneur-chef, mais Jean-François Hull, là, avant de se diriger dans la Ligue américaine puis de faire transporter son baluchon à certains endroits, là, ben, c'était l'entraîneur-chef de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Le directeur général, c'était Joël Bouchard. Son entraîneur adjoint, c'était Joël Bouchard. Son propriétaire, c'était Joël Bouchard. Tout simplement pour dire qu'ils sont un peu la même... Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais le personnel entraîneur des Canadiens, c'est un peu toute la même gang.
Oui, mais il n'y a pas le même tempérament. Ce sont différentes personnes, là, je dirais.
Ouais, il est plus,
il est plus posé, il est moins tape à l'œil, là, moins présent devant la caméra.
Ah, vous comprenez ses connaissances hockey se recoupent un peu avec celles de Bouchard. C'est ça que je veux dire, moi, hockey.
Mais je dis pas que le style de. Puis là, c'est sûr que ça remonte à loin. Là. Il était avec l'Armada de Blainville-Boisbriand dans les alentours de 2013. Là. Ça fait longtemps. Non, le style n'est pas exactement pareil. Comme Nick dit, je pense que Joël Bouchard était davantage intense, davantage de pression sur le porteur de la rondelle. Je pense que des Harvey Pinard ressortaient davantage dans le style de Joël Bouchard. Je pense que Jean-François Hull, de ce que je me souviens, là, il a un style agressif quand même. Des joueurs comme Cédric Paquette se sont développés avec Jean-François Hull, avec l'Armada. Mais il y a peut-être davantage de place au système de jeu, par contre, aussi. Là. Je pense que... sans faire une critique de Joël Bouchard, je pense que parfois, il y avait peut-être de la difficulté avec certains joueurs qui sont uniquement offensifs, si tu veux. Alors, je pense que Jean-François Hull va peut-être savoir plus doser entre les deux, là, selon moi. Mais encore là, comme je dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Jean-François Hull aussi. Là. Il a tellement été longtemps dans la Ligue américaine, dans d'autres équipes, là, qu'on va bien voir.
27 joueurs ont été invités au total là, dans le camp des recrues des Canadiens. Évidemment, on ne les a pas tous couverts. On doit en avoir couvert peut-être une douzaine. Est-ce qu'il y a un joueur que vous auriez aimé ça, qu'on discute, que je ne vous ai pas lancé là, sur lui?
Mais moi, il y a un joueur que je veux que les gens surveillent une attention. Je pense qu'honnêtement, c'est un espoir intéressant. Puis sans dire qu'il va avoir une offre de contrat, je pense qu'il faut le retenir dans les prochaines années. C'est Avery Hayes. Avery Hayes, c'est un joueur qui était admissible au dernier repêchage, qui n'a pas été sélectionné. Donc, c'est un joueur invité. Mais lui, c'est un joueur de la Ligue junior de l'Ontario, justement, les Bulldogs d'Hamilton, là, comme je mentionnais. Bon, est-ce que M. Andlauer a aidé à le faire inviter? Peut-être. Mais tout ça pour dire que j'ai regardé quelques séquences d'Avery Hayes au cours des derniers jours, puis honnêtement, il y a quelque chose d'assez intéressant. Là. C'est un petit joueur, là, 5 pieds 10 pouces, 165 livres, mais il est très fougueux. Il se débrouille super bien dans les coins de patinoire. Malgré sa taille, là, c'est pas quelqu'un qui se fait frapper énormément, quelqu'un qui est capable beaucoup de rouler les mises en échec. Il est très hargneux, là. Il n'a pas peur de travailler assez fort et il a quand même une bonne mentalité de fabricant de jeu également. Donc, je suis en train de vous dire, comme je dis, qu'il va se tailler un poste à Montréal à 18 ans, là, mais je pense que ça peut être quelqu'un qui va peut-être taper dans l'œil un peu, puis il peut retenir l'attention. Là, si c'est pas à Montréal, ça arrive parfois. Là. Se retrouve dans d'autres camps avec d'autres équipes. Finalement, mais c'est des joueurs qui peuvent jouer dans la Ligue américaine, avoir une certaine carrière et peut-être même dans la LNH. Mais, moi, je trouve que ça va être un joueur à surveiller.
Les gars, je pense qu'un joueur à surveiller, et on n'en parle pratiquement pas, là, c'est Daniil Sobolev. Daniil Sobolev, ça sonne peut-être pas une cloche. Il a été repêché dans le dernier rang amateur là, par le Canadien au cinquième tour, si je me souviens bien. Défenseur russe, mais ce qui est intéressant, c'est que lui, il devait jouer avec le Spitfire de Windsor l'an passé dans la Ligue junior de l'Ontario. Mais évidemment, on sait ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de saison là-bas, donc on n'a pas eu la chance de le voir aller. Mais à gauche et à droite, moi, sur Twitter, par des spécialistes, certains analystes, experts des espoirs, j'ai lu beaucoup de bien sur Daniil Sobolev. Fait que j'ai vraiment hâte d'avoir un premier aperçu de son jeu. Là.
Mais ce qui est encore plus intéressant, on parle de Sobolev, mais on pourrait dire la même chose de Joe Verbetich, le gardien qui a été repêché au septième tour par les Canadiens. C'est que ces gars-là n'ont pas joué de match compétitif depuis mars 2020. Mm-hmm. C'est difficile de dire, OK, Sobolev, c'est une mauvaise sélection ou une bonne sélection. Ça fait un an et demi que j'ai pas vu de vidéos de lui activement. J'ai pas accès à des vidéos d'entraînement ou quelque chose comme ça. Je l'ai vu un peu hier, là. Ça m'a semblé laborieux, mais bon, c'était une pratique aussi, là. Ça veut pas tout dire, là.
Oui, c'est normal qu'il soit rouillé aussi.
Mais tout simplement pour dire que simplement de le voir jouer, pour le voir jouer, ça va être intéressant parce que il n'a pas joué depuis mars 2020. Il n'a pas joué de match compétitif depuis ce temps-là.
Oui, puis c'est souvent même que tu peux faire des coups fumants au repêchage. Là, s'il y a un talent qui a été un peu oublié, qui a été caché, ben, l'année que Sobolev n'a pas pu disputer, ça a peut-être pu le permettre d'être un peu plus en dessous du radar là, de certaines équipes. Et finalement, peut-être qu'on va découvrir « Wow, ce gars-là avait un méchant potentiel. »
Ouais, c'est un couteau double tranchant, ça. L'absence de données fait en sorte qu'il peut passer sous le radar, mais ça peut aussi faire en sorte que avoir su, je ne l'aurais pas choisi. Mais ça,
absolument, c'est ça. Ça peut être d'un côté comme de l'autre, mais il y a un potentiel que ça fasse quelque chose de bien aussi. Là.
Mais tu parlais des aspects intéressants de la COVID puis des choses qu'on va peut-être découvrir, découvrir des aiguilles dans des bottes de foin, si tu veux. Il y a un aspect intéressant que je remarque dans le camp des recrues. Je reviens à Avery Hayes. Là. Avery Hayes, c'était un des participants du showcase à Erie en Pennsylvanie au mois de mai. Ça, c'est un événement qui a été organisé sur la patinoire des Oilers d'Érier, une équipe de la Ligue junior de l'Ontario. Justement, ils ont fait un showcase avec plusieurs des bons espoirs de la région. Donc, ça inclut Ontario, Pennsylvanie, etc., toute cette région-là, pour le repêchage de l'LNH, pour les faire connaître. C'est là, notamment, que Logan Mailloux s'est fait connaître. Il a été excellent au niveau... Ça a probablement été de loin le meilleur joueur de ce tournoi-là. Mais tout simplement pour dire, je ne sais pas si Trevor Timmons n'essaie pas de miser un peu sur ce tournoi-là. Là, je crois que ça lui. C'est peut-être quelque chose qu'il veut essayer de soutirer. Là. Ils ont sélectionné Logan Mailloux grâce à ça. Avery Hayes, c'est là que je l'ai regardé un peu. Là. Il a quand même été bon lors du match que j'ai regardé. Et là, le fils de Tag Bertuzzi. Lui jouait là également. Donc, est-ce que Trevor Timmons a aimé ce qu'il a vu de 3 ou 4 joueurs. Il s'est dit « OK, je vais en inviter 2-3. » c'est fort possible. Là. On verra bien, là, mais en tout cas, c'est peut-être une avenue.
D'ailleurs, il y a un des invités là-dedans qui apparemment est piégé au Bélarus, là, fait que, en Biélorussie. Fait qu'on le salue. Là,
C'est vrai? Ah, je savais pas.
Ouais. Problème de visa, apparemment. Là, je viens de voir ça. Là, mais, dommage.
Ivan Dzigalov. C'est simplement dommage parce que les Canadiens n'ont pas énormément de gardiens de but à ce tournoi-là. Ça aurait peut-être simplement été bon qu'ils soient là pour, pour ça. Là, ils vont simplement avoir deux gardiens qui sont Verbetic et Alexis Gravel. Là. C'est pas exactement Kaden Primo, disons.
Ah ouais, ouais.
Non. D'ailleurs, au moment où on se parle, au moment où on enregistre la formation pour le match de demain contre les Sénateurs, n'est toujours pas annoncé, mais ça va être intéressant de voir la composition du trio, comment les joueurs vont se débrouiller. Je vous le rappelle, là, ça a lieu demain à 16h contre les Sénateurs d'Ottawa.
Juste un petit rappel, là, souvenez-vous, tu sais, on juste prendre en considération que ces matchs-là, c'est pas tout. Jesperi Kotkaniemi avait été atroce, mais atroce dans ces matchs-là à l'époque. Alors, on prend une bonne respiration, s'il y a des espoirs qui connaissent, qui en ont vraiment de mauvaises dans le corps. Là.
Mais je veux rajouter un mini point, puis ça ne presse pas énormément dans la balance, mais pour les gens de Trois-Rivières qui veulent surveiller les Lions de Trois-Rivières, dans le camp des recrues des Canadiens présentement, pour l'instant, on n'en parle pas du tout avec les Lions. Mais il y a deux joueurs, moi, que honnêtement, comme je vous disais, je me suis amusé à faire les prévisions des Canadiens et du Rocket, là. Justin Ducharme et Cédric Desruisseaux, je pense qu'ils ont des chances de se retrouver à Trois-Rivières. Non seulement d'être à Trois-Rivières, mais d'être les futures vedettes de l'équipe. Du moins, dans le cas de Desruisseaux, là, c'est un excellent joueur offensif. Une belle saison de 20 ans, la saison dernière à Charlottetown. Ces gars-là, selon moi, vont se retrouver au camp des Canadiens. Vont être retranchés. Puis, je regarde l'organigramme du Rocket, je vois pas nécessairement de place pour eux. Honnêtement, moi, je les verrais. C'est des gars de 21 ans plutôt. Vont se retrouver à Trois-Rivières, t'as peut-être davantage d'intérêt à leur donner du temps de glace. Moi, je vous dis, surveillez-les, et surtout Desruisseaux. Je suis pas en train de dire que c'est sûr à 100% qu'il joue dans la LNH. Je parierais pas contre lui. Honnêtement, j'ai toujours adoré ce joueur-là. Là. Petit gabarit, mais fougueux, puis quand même un bon... Je l'ai toujours trouvé bon offensivement. Là. Donc,
ouais, on en avait parlé l'an dernier quand il avait signé avec le Canadien. Ça venait tout juste d'être annoncé là, que Trois-Rivières devenait une filiale. Là. Donc, je pense que au moment qu'il a posé sa signature sur le contrat, il y avait des bonnes chances là, qu'il se dirige avec les Lions de Trois-Rivières. Donc, je suis en accord avec ce que tu dis, Marty. Moi aussi, je pense que Desruisseaux pourrait devenir une vedette. Là,
d'ailleurs, le Rocket là, qui a annoncé qu'il s'est entendu avec Kevin Roy.
Ah, OK. Ah, ouais, intéressant.
C'est vraiment... Oui. Kevin Roy, là, il y a un record, si je me souviens bien. Je pense que c'est un record qui est partagé justement avec Sean Farrell. Le record pour le nombre de points en une saison dans la USHL.
Ouais, exactement. Je pense que c'est les buts. Je pense que c'est le record des buts, tu parles.
Non, je pense que c'est des points, moi. Je pense que c'était genre une centaine de points ou plus, mais en tout cas, c'est une intéressante signature.
Vas-y, Marty.
Mais je vous le dis, les gars, la formation du Rocket de Laval, c'est, en bon français, c'est n'importe quoi. Ils ont tellement c'est de joueurs et des gars de talent. Là. Des gars qui ont joué la Ligue nationale, là, il y en a au moins 7, 8, 9. Là. Ils ont des joueurs comme Gabriel, dans ma formation projetée, t'as un joueur comme Gabriel Bourque qui a 400 matchs dans la Ligue nationale. Il est dans la formation, je le place sur un troisième trio. C'est fou comment ils ont...
Kevin Roy, il a fait 30 points en 35 matchs l'an passé dans la Ligue américaine. C'est pas un pied de céleri, là.
Oui, absolument. J'ai vu des matchs de Tucson, puis c'était une organisation qui était atroce, là. Puis ça a pratiquement été l'un des... Avec Michael Bunting, peut-être, là, ça a peut-être été un des seuls bons joueurs de l'équipe. Ça donne une idée, là.
Autre nouvelle qui est sortie ce matin, bon, c'était un peu un secret de polichinelle, mais c'est maintenant confirmé. Là, le repêchage 2022 va avoir lieu à Montréal l'an prochain. Bon, c'était au préalable en 2021 pour des raisons évidentes de pandémie. Ça a été repoussé à la saison prochaine. Peut-être que le podcast La Relève sera en direct du Centre Bell pour couvrir les activités. Mais ça, c'est toujours intéressant. J'espère juste qu'il n'y aura pas une influence sur les sélections comme ça avait peut-être eu lieu dans le cas de Louis Leblanc là, à l'époque, là, mais je pense que ça va être un beau happening quand ça arrive au Centre Bell.
L'organisation a fait le plein de Québécois au dernier repêchage. Je pense qu'elle s'est achetée un peu à la paix en ce sens-là. Ce qui est intéressant, c'est que là, à cause de l'offre hostile et à cause du choix que les Hurricanes ont donné au CH, ben là, le CH va au moins va pouvoir repêcher au premier tour, là, même s'il a pu faire l'acquisition de Christian Dvorak. Moi, je pense que, initialement, les Canadiens voulaient Christian Dvorak avec Kotkaniemi dans la formation parce que ça aurait pu permettre à Ducharme de protéger davantage Kotkaniemi. Mais pourquoi on n'a pas vu Dvorak s'amener avec les Canadiens avant la fameuse offre hostile? Mais je pense que c'est parce que, justement, Bergevin, il savait qu'il devait payer son choix de premier tour, mais c'était son seul choix de premier tour à l'approche d'un repêchage qui allait se tenir à Montréal. Fait que de cette façon-là, ça influence ses décisions de Bergevin. Il ne peut pas échanger son choix de premier tour à date limite. Je pense qu'il ne le fera pas. Tu n'as pas le choix quand tu... oui, c'est ça.
Et Nick,
quand
en
tu
plus,
accueilles ça dans la mecque du hockey, là...
Ouais. Marc Bergevin, à moins que je me trompe, n'a jamais échangé son choix de premier
c'est
tour.
Ça, c'était la première donc, fois qu'il l'échangeait, en fait.
Donc, c'est clair qu'il ne voulait pas commencer ça pour Christian Dvorak parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. On pense à la transaction d'Eric Carlson. OK, bon, parfait, je te donne mon choix de premier tour. Finalement, saison catastrophe. Et là, les sénateurs, je pense que c'est Jake Sanderson. En tout cas, je ne vais pas m'avancer, là, mais si je ne m'abuse, c'est ça. Donc, tu peux perdre un excellent joueur. Puis moi, où est-ce que j'adore cette transaction-là? C'est les conditions du choix. Ouais. C'est pour les gens qui ne le savent pas, là, Christian Dvorak est échangé pour un choix de premier et deuxième tour. Les Coyotes vont recevoir le meilleur des deux choix entre celui du Canadien et des Hurricanes. Par contre, si une des deux équipes se retrouve à choisir dans les 10 premiers rangs, c'est le pire choix qui va être remis aux Coyotes. Donc, entre guillemets, si le Canadien, saison catastrophique, mais ce n'est pas ce choix-là qui va partir. Ça va peut-être être le 25e des Hurricanes. Donc, c'est là. Moi, j'aime ça parce qu'on se protège quand même
c'est ça. Chez le Canadien. Ce que j'aime de Bergevin, c'est que là, il réussit à être agressif quand même pour conclure une transaction. Mais c'est pas parce que c'est la première fois qu'il a échangé son choix de premier tour qu'il ne va pas repêcher au premier tour. Fait que ça veut dire que la série d'années avec une sélection au premier tour par les Canadiens se poursuit. Puis ça, j'aime exact. Ça. Moi, je ne veux en pas principe. Que les Canadiens, mettons, commencent à devenir une organisation comme les Rangers de New York là, qui font juste se rabattre là, sur la possibilité de séduire n'importe quel joueur autonome et ne repêchent pas pendant des années au premier tour. Ça finit toujours par te rattraper. C'est inévitable.
Même si les Rangers de New York ont beaucoup trop d'espoir dans leur banque, ils repêchent régulièrement au premier tour.
Il y a un vent de changement, je te l'accorde. Il y a un vent de changement là-dessus. Quand Gordon est arrivé, là, ça a changé.
Il y a une dizaine d'années, là, ça ne repêchait pas souvent.
Mais petite info intéressante là, pour, par rapport à ton anecdote sur Eric Carlson des autres, c'était Tim Stutz, là, l'espoir.
Ah, OK.
Et qu'ils ont pu sélectionner avec le choix des Sharks. Donc, ça donnait une idée.
Mon erreur. Mais c'était le fun, messieurs, de vous parler hockey. Honnêtement, ça me manquait. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à nous écouter parce que c'est pas le premier là, c'est le premier de plusieurs. Là. On aura la chance de se retrouver là, à chaque semaine tout au long de la saison. Bon, évidemment, là, on va suivre le camp d'entraînement des Canadiens de Montréal, mais aussi de ceux un peu partout à travers la Ligue nationale. Et je vous le rappelle, là, dans 25 jours environ, là, c'est le début de la saison régulière de la NHL. Êtes-vous excités, messieurs?
Ah, absolument que je suis excité.
On est excité. Tu dis, je vous dis, on a pu faire une heure et on aurait pu en faire encore plus sur les Canadiens. Là. Puis on n'a même pas parlé du reste de la Ligue nationale. Je vous dis, il y a encore plus de stock. On n'a même pas parlé de Cole Caulfield qui devrait être un candidat.
On va en parler.
On en parlera.
Au potentiel au Trophée Calder. Il y a tellement de choses, là, mais une chose à la fois.
Yes.
Alors, à mon nom personnel et en celui de mes deux collègues, je vous souhaite de passer une belle soirée et on se dit à la semaine prochaine.